Bonjour à toutes et à tous, il est midi 15, vous écoutez Radio BLV, bienvenue dans la locale. Le coup de projecteur sur celles et ceux qui font le territoire. Alors aujourd'hui c'est Agathe, Tania et Kiana qui vous accueillent, bonjour à vous.
Coucou.
Bonjour.
Bonjour. Et Kat à la technique et Isabelle qui est en soutien à la technique. Il y a pas mal de monde. Alors Kiana, au sommaire de cette locale du jeudi 16 juin, de quoi et avec qui allons-nous parler ?
Alors aujourd'hui, on a Isabelle Desforges de l'association WeMade au téléphone. Et WeMade, c'est un dispositif de la justice restaurative. Et nous avons avec nous en studio Isabelle Turquin, médecin endocrinologue pour la prévention du diabète. Et comme d'habitude, nous allons avoir des infos et des brèves locales.
Alors j'avais un grand souhait de faire connaître aux auditeurs le dispositif de justice restaurative, donc découverte dans le cadre de mon travail de travailleur social. Donc j'ai proposé à Isabelle Desforges de venir nous en parler. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Donc, alors vous aurez largement le temps de nous parler de votre parcours et de vos interventions au sein de l'association Remède. Mais avant toute chose, j'avais envie de vous demander tout simplement, qu'est-ce que la justice restaurative ?
La justice restaurative, en fait, est complémentaire du système de justice pénale. Et pour faire simple, c'est un espace de dialogue qu'on propose pour les personnes victimes ou auteurs d'infractions, avec la particularité que c'est totalement ouvert et volontaire comme démarche, et ça peut être engagé à tous les stades de la procédure et pour toutes sortes d'infractions, y compris les plus graves. Donc c'est une démarche qu'on peut engager, qu'il y ait eu une plainte ou pas, que la plainte soit prescrite et donc qu'il y ait des poursuites qui ne soient pas possibles ou pas. Ça peut être engagé également après un procès parce que le procès n'a pas permis de répondre à toutes les questions que peut se poser la victime et n'a pas permis à la personne auteur de dire tout ce qu'elle avait à dire.
D'accord. Je voudrais juste, pour nos auditeurs, rappeler un peu d'où vient ce dispositif, l'historique un peu de la mise en place de la justice restaurative, d'où elle vient. Vous pouvez nous en dire deux mots.
La justice restaurative, en fait, elle est développée depuis les années 70 hein, dans les pays anglo-saxons. Plus proche de nous, en Belgique, il y a une loi de 2005 qui l'a introduit. En Belgique, c'est essentiellement auprès des mineurs, hein, puisque la démarche de justice restaurative en matière de justice des mineurs en Belgique, c'est une phase obligatoire avant qu'il y ait un procès. L'objectif de la justice restaurative étant de permettre une réparation et une réinsertion de la personne auteur. Et donc, en Belgique, ils en tiennent compte hein, pour prononcer ou pas une peine ensuite. En France, ce n'est pas ce qui a été choisi. Hein, c'est-à-dire que la justice restaurative, finalement, elle est complémentaire, mais elle est indépendante du système de justice pénale. Et donc, en France, c'est une loi du 15 août 2014 hein, qui était relative à l'individualisation des peines, hein, qui n'était pas que pour la justice restaurative, qui l'a introduite dans le droit français.
Mmh. Et comment elle prend place un peu dans le décor français ? Parce qu'il me semble qu'on n'en entend pas forcément beaucoup parler, enfin moi à titre personnel. Est-ce qu'elle s'installe tout doucement mais sûrement en France ?
Parce que... Oui, alors il y a effectivement déjà, même au niveau des textes, un élargissement qui a été fait depuis cette loi du 15 août 2014. Après, en France, hein, il faut toujours des circulaires pour appliquer les lois. Donc, elle est arrivée en 2017 déjà, cette circulaire. Donc, hein, ça met des années. Et puis, plus proche de nous, en fait, des dispositions sur la justice restaurative ont été insérées dans le code de justice pénale des mineurs pour que effectivement ça puisse se développer aussi à destination des mineurs auteurs.
Alors pour revenir voilà sur la notion de réparation victime auteur et vous disiez que c'était en libre adhésion, il faut que les deux parties soient OK avec ça si j'ai bien compris. Et c'est ça?
Oui, c'est vraiment le principe qui fonde cette démarche, le caractère volontaire, justement, ça n'a rien à voir avec la médiation pénale où là, il peut y avoir une contrainte, hein, puisque c'est proposé par le procureur. Là, c'est vraiment effectivement un dispositif qui est proposé et qui est ouvert à toute personne. Elles n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur propose, à condition qu'elles en aient connaissance. Donc, c'est ça, l'intérêt aujourd'hui de cette émission. Elles peuvent s'emparer tout à fait de cette démarche et qui se mettra en place à condition effectivement que chacun souhaite s'y engager. Après, pour cette démarche de réparation, la justice restaurative, c'est un espace de dialogue. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura une rencontre en face à face des personnes. Et des échanges peuvent se faire de différentes manières. Ça peut être par le biais d'échanges de courriers, ça peut être aussi ce qu'on appelle une médiation navette, c'est-à-dire par l'intermédiaire du médiateur. Et la particularité, c'est qu'on ne va pas organiser des échanges sous quelque forme que ce soit de manière directe. Il va y avoir un accompagnement de chacun avec des entretiens individuels.
Et c'est bien ça la particularité aussi, c'est qu'on accompagne et on prépare à une rencontre ou pas, hein, comme vous disiez, mais des deux côtés en fait, autant du côté de la victime que de l'auteur, autrice.
Et... Oui, on prépare à des échanges, effectivement, et au-delà de ces entretiens individuels, donc menés avec un médiateur, on s'assure que chacun puisse par ailleurs bénéficier d'un soutien psychologique. Donc soit les personnes ont déjà mis en place un suivi individuel, soit ce n'est pas le cas et on peut leur proposer effectivement à titre gratuit, hein, en s'appuyant sur les psychologues de nos structures, un accompagnement au plan psychologique qui est donc parallèle à la démarche, puisque la démarche de réparation, alors en fait on peut utiliser le terme de réparation, mais le nom de justice restaurative, c'est qu'on envisage plutôt la restauration des personnes. Ah, parce que la réparation, surtout en droit français, ça fait appel tout de suite à des questions d'indemnité. Là, on ne vient pas en justice restaurative pour cela. En même temps, ce n'est pas exclu si les personnes souhaitent aborder cette question-là, elles peuvent le faire, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif principal, c'est vraiment que chacun puisse s'exprimer sur les conséquences, les répercussions des actes qui ont été commis, subis, hein, parce que pour chacun, effectivement, ça a des conséquences et des répercussions. Et c'est une démarche, en fait, de compréhension déjà et de réappropriation de son histoire, que ce soit du côté de la personne victime ou de la personne auteur. Donc, c'est pour ça qu'on parle plutôt de restauration que de réparation. Mais l'objectif, c'est bien effectivement de venir réparer chacun et de permettre à chacun de pouvoir poursuivre son parcours de vie différemment. Oui. Après
apaiser au maximum. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur quel fait, par exemple, peut avoir lieu une justice restaurative?
Comme je l'ai dit pour la présentation générale issue de la loi de 2014, ça couvre tout type d'infractions, y compris des infractions graves pour lesquelles on n'aurait peut-être pas imaginé justement un dispositif de dialogue entre personnes victimes et auteurs. Mais nous, la première médiation restaurative qu'on a mis en place, c'était par rapport à des faits d'inceste. Mmh. On a effectivement beaucoup de demandes de la part de personnes victimes d'infractions à caractère sexuel. C'est souvent les victimes qui sont en demande. Ça peut aussi concerner des faits de vol avec violence. Hein. Par exemple, un vol à l'arraché peut avoir effectivement des conséquences traumatiques importantes pour les personnes victimes. Hein. Un accident de circulation.
Entraînant même la mort, donc ça veut dire que ça peut être aussi les personnes qui peuvent être en demande, ça peut être aussi la famille, les personnes qui restent, s'il y a...
Oui, aussi. C'est vrai qu'en justice restaurative, dans le terme victime, il est envisagé d'une manière très large, puisqu'en fait, on va considérer la victime directe, bien entendu, de l'infraction, mais ça peut être ses proches qui eux-mêmes subissent les répercussions de l'infraction à travers, j'allais dire, la peine de la victime et puis les changements qu'il peut y avoir pour elle, et a fortiori, bien sûr, quand la personne est décédée. Donc, ça peut être le conjoint de la victime qui fait cette démarche-là. Si on prend l'exemple d'une personne qui aurait subi un viol, forcément, ça va avoir un retentissement dans sa vie et dans son intimité. Donc, le conjoint, par exemple, je dis conjoint, mais quel que soit le terme, le partenaire ou la partenaire pourrait tout à fait participer à ce dispositif. Ça peut être les parents pour une victime mineure ou majeure. Ça peut être...
Oui, parce que forcément, il y a des répercussions dans le système familial. Et oui. Tout le monde a quelque chose à dire, j'imagine.
Oui, et c'est pour ça que les pratiques de justice restaurative, en fait, elles peuvent concerner... l'environnement familial et même peut-être plus largement social de la personne. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs dispositifs en matière de justice restaurative. J'ai parlé de la médiation restaurative, donc là, ça concerne essentiellement la personne victime, que ce soit une victime directe ou, comme on dit, indirecte, quand on sait les parents, le partenaire ou la partenaire, ou d'autres membres de la famille, par exemple, et puis la personne auteur concernée. Ça, c'est la médiation restaurative pour faire des échanges entre ces personnes. Mais il peut y avoir d'autres dispositifs. Il y en a un qui s'appelle la conférence restaurative, où là, effectivement, c'est la personne victime et la personne auteur qui décident qui pourrait participer aux échanges avec eux, qui a été concerné, qui a été touché par l'infraction, qui aussi peut les aider et les accompagner dans leur parcours de vie, hein, dans une perspective de réparation. Des personnes.
Et jusqu'à l'aboutissement d'une rencontre finale, d'une conférence, c'est-à-dire tout le monde est présent, ou c'est...
Là, dans ce cas, oui, en plus, on peut inviter des personnes qui seraient des amis très proches, qui sont importants et qui vont avoir un rôle à jouer, effectivement, dans le parcours de réparation des personnes, ou qui peuvent être des soutiens ou des personnes ressources. Je vais dire n'importe quoi, une personne, elle pourrait demander à son animateur sportif, parce que c'est une personne très investie dans le sport, d'être présent, parce que cette personne, en plus, elle connaît, je pense à l'auteur, elle connaît la personne sous un autre angle que celui de l'acte qui a été posé. Et elle peut aussi témoigner de ce que cette personne-là est capable d'accomplir d'une manière positive dans l'existence.
Et je me demandais du coup s'il y avait des études qui avaient été faites pour mesurer justement l'impact bénéfique ou pas auprès des personnes concernées, des personnes qui ont été conviées à toutes ces formes de médiation ou de conférences. Est-ce qu'on a du recul avec tout ça? Pas en France, peut-être au Canada, en Belgique?
Oui, il y a des études internationales qui ont été faites effectivement par rapport à la question de la récidive, hein, même si la justice restaurative peut éventuellement, vu ce qu'on vient de dire, avoir des effets en termes de prévention de la récidive, c'est pas son objectif, elle n'a pas été instrumentalisée pour ça. Il n'y a pas d'objectif si ce n'est restaurer les personnes, mais nécessairement ça produit des effets à ce niveau-là. Hein. Donc il y a une réduction importante de la récidive qui est notée, donc ça dans les études internationales. En France, on n'a pas assez de recul par rapport aux pratiques. En revanche, l'Institut français pour la justice restaurative a mené justement des enquêtes auprès de personnes ayant participé. Et dans les effets qui sont produits, il y a de l'apaisement. Une baisse importante effectivement de l'anxiété vécue par les personnes victimes qui ils sont souvent inquiètes, notamment après une sortie de prison, si jamais je recroise l'auteur dans la rue, comment ça va se passer. Et on constate que chez les personnes auteurs aussi, il y a beaucoup de peur, la même. Est-ce que la victime ou ses proches n'auront pas envie de se venger maintenant, même si j'ai purgé ma peine, mais maintenant que je suis à nouveau en liberté et qu'on risque de se croiser dans la rue. Donc l'effet d'apaisement, de
poser des mots, d'être écouté.
Oui, la libération de la parole. Et puis souvent, effectivement, l'espace qu'on propose, il permet un dialogue le plus authentique possible entre les personnes. Donc dans la sincérité. Vous voyez, des excuses qui ont été prononcées au moment d'un procès, la personne victime, elle ne les reçoit pas toujours parce qu'elle se dit que c'est pour instrumentaliser.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a un sacré investissement aussi. C'est pas en une seule, en un seul entretien ou accompagnement que c'est suffisant. Je pense que c'est sur un dispositif, un processus à long terme quand même, enfin plus ou moins long terme.
Oui, il y a, donc dans le cadre de la préparation aux échanges, hein, quelle que soit la forme, que ce soit sous forme de rencontre ou de courrier ou autre, il y a donc une préparation individuelle avec au minimum 3 entretiens préparatoires pour chaque personne, mais ça peut être bien plus en fait, c'est en fonction des besoins des personnes, sachant qu'effectivement on organisera des échanges directs ou indirects entre les personnes que quand chacun sera prêt. Donc c'est vrai aussi que les personnes peuvent avancer à des rythmes différents, donc on doit aussi
respecter la temporalité aussi.
Oui.
Des fois c'est tellement violent ou difficile, j'imagine qu'il faut aussi laisser un peu d'espace à ce qu'il y ait une un nouveau temps pour en discuter, laisser un peu les choses se reposer.
Oui, sachant qu'effectivement, dans l'intervalle de ces entretiens, il peut y avoir à côté de l'accompagnement thérapeutique, et donc il va y avoir comme ça des effets, j'allais dire, autant dans la démarche restaurative qu'inversement dans le travail thérapeutique en cours, c'est sûr, parce que finalement, même dans ces entretiens individuels, les personnes sont déjà mises en dialogue avec l'autre, hein, puisqu'on en parle de l'autre. On en parle de ses peurs, de ses craintes, de ses attentes. Donc l'autre, il est déjà présent.
Alors, je vois un petit peu le temps qui défile et puis je vois toutes les petites questions que j'ai en tête. Mais du coup, quand même, pour revenir un peu plus sur vous et votre parcours, pouvez-vous nous dire voilà, quelles sont vos formations ? Parce qu'il me semble qu'il est nécessaire, vous me dites si je me trompe, qu'il est nécessaire d'avoir une formation tant dans le domaine de la justice que de l'accompagnement pour être à la place où vous êtes ou pas ?
Alors, en fait, la condition indispensable, c'est d'avoir reçu une formation spécifique en matière de justice restaurative. Donc, l'Institut français pour la justice restaurative propose des formations. Et il y a 2 modules minimum à suivre. Donc, un premier sur la base. Mmh. Et puis, ensuite, un deuxième sur l'animation de mesures. Et il y a un module pour chaque type de mesure. Hein, il y a la médiation restaurative, la conférence restaurative où là, comme j'expliquais, l'auteur et la victime invitent des personnes qui peuvent être ressources ou qui peuvent avoir également été touchées par l'événement. Et puis, il y a une autre mesure dont on n'a pas parlé, qui sont les rencontres condamnées-victimes ou rencontres détenues-victimes. Là, c'est des rencontres en groupe entre des personnes victimes et auteurs d'un même fait. Par exemple, on décide de réunir des victimes d'accidents de circulation. Mais elles se connaissent pas.
Elles ont eu ce commun en tout cas d'avoir vécu quelque chose autour de la circulation et de.
Voilà, ça permet justement quand une rencontre ou des échanges directs entre l'auteur et la victime des mêmes faits n'est pas possible, pas envisageable ou pas souhaité, que par le biais finalement de ces rencontres avec des auteurs et des victimes de substitution, hein, qui ont posé des actes identiques ou qui ont vécu des actes identiques, de pouvoir quand même avoir pour les personnes victimes des réponses.
Entendre des témoignages qui puissent permettre à la compréhension et au cheminement intérieur, enfin et personnel j'imagine.
Oui. Et donc, pour la formation, donc, on fait le choix de suivre telle et telle formation. Alors, moi, à titre personnel, j'ai suivi tous les modules parce que je suis passionnée par le sujet. Il n'y a pas d'obligation, par contre. Hein, de.
Faut pas avoir un diplôme en lien avec la loi, par exemple ?
Non, ce n'est pas une obligation. Okay. Après, c'est vrai que parmi les personnes qui ont suivi ces formations, on a beaucoup d'éducateurs, soit en protection judiciaire de la jeunesse, de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, ou de personnel des associations d'aide aux victimes. Mais parce que c'est ces services-là pour le moment qui les proposent, mais pour devenir animateur, justement, on doit être indépendant, neutre, impartial, et on pourrait tout à fait ne pas faire partie de ces structures-là. D'accord. Du moment qu'on justifie de la formation spécifique, on peut devenir animateur.
Alors vous, en tout cas, sur le territoire valentinois, vous représentez l'association Remède. Alors je rappelle pour les auditeurs ce que signifie Remède: réconfort, écoute, médiation, aide, information sur les droits. Donc c'est une association qui est implantée sur le territoire donc valentinois depuis 1990 à l'initiative des magistrats. Donc je voulais juste brièvement, parce qu'il nous reste très peu de temps, on va laisser la place aussi à notre deuxième invité, et du coup savoir un petit peu ça représente quelle profession.
Alors, oui, Remède, en fait, c'est devenu Remède France Victime 26, parce qu'on dépend de la Fédération France Victime, qui est une fédération nationale qui regroupe 130 associations d'aide aux victimes sur le territoire. Il y a une association d'aide aux victimes sur chaque département. Mmh. Et donc, nous, on s'occupe du département de la Drôme. Et dans ce service, donc il y a un service d'aide aux victimes, je ne parlerai pas des autres, voilà, parce qu'on n'a pas le temps. Mmh. Et dans le service d'aide aux victimes, c'est un service qui est composé de professionnels, donc avec une formation initiale de juriste. Il y a aussi des psychologues. Nous avons aussi une sophrologue. La sophrologie, c'est des techniques de relaxation, gestion du stress. Et donc, effectivement, notre mission principale, c'est l'aide aux victimes. Et la justice restaurative, on a considéré que ça pouvait être un outil efficient pour les victimes et complémentaire de ce qu'on proposait. Et c'est un outil, en fait, à la fois pour les personnes victimes, mais aussi pour les personnes auteurs. Et c'est vrai que Remède a aussi un service qui prend en charge les auteurs. Voilà, donc la justice restaurative, en fait, c'est une synthèse, en fait, une troisième voie qui permet de réunir les uns et les autres s'ils le souhaitent pour pouvoir dépasser les événements vécus. En fait, c'est ça, la justice restaurative.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que vous avez des coordonnées, une communication à faire en particulier? Comment, en deux mots vraiment, comment quelqu'un qui se sent concerné par ce qu'on vient de dire peut faire? Elle s'adresse directement à l'association Remède?
Oui, voilà, les personnes qui seraient intéressées pour avoir plus d'informations sur la justice restaurative peuvent prendre contact avec l'association Remède. Donc, je donne le numéro, c'est 04 75 55 39 34. Après, on a un site internet, un formulaire de contact. Mmh. Et puis sinon, donc, j'ai beaucoup parlé de l'Institut français pour la justice restaurative, si les personnes n'habitent pas à la Drôme ou sont simplement de passage. Donc il y a un site internet aussi, justicerestaurative.org, et puis un numéro qui est joignable au 05 59 27 46 88. Et ensuite, ce service va mettre les personnes en relation avec les structures les plus proches de leur lieu de domicile qui pourraient répondre à leurs demandes.
Très bien. Merci infiniment, Isabelle Deforge.
Merci, Agathe.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, voici quelques infos. Concernant ce 17 et 18 juin, il y a Oura, une création du labo Via Nova sous forme de lecture apéritive. Ayant un faible pour Nikolaï Gogol, labo Via Nova propose une soirée et deux petites pièces à redécouvrir pour certains, cet auteur majeur du 19e siècle. La première pièce, c'est Le mariage. L'histoire d'un éternel célibataire qui fait appel au service d'une marieuse menteuse et manipulatrice qui lui présente en même temps, qui se présente à lui en même temps qu'à quatre hommes. C'est la fille d'un marchand. Et la seconde pièce, c'est le Revisor. Et le résumé est le suivant. Dans une petite ville de province, la population est en grand émoi. On attend le Revisor, un inspecteur que le gouvernement envoie incognito. Et c'est la panique totale, car bien des fonctionnaires et autres craignent que l'on découvre leurs méfaits. Ce sera du 17 au 18 juin à 20h30 au quai de Seine, 5 rue Gaspard Monge, à Bourg-lès-Valence. Le plein tarif est à 12 euros, tarif réduit 10, et pour les moins de 10 ans, c'est 5 euros.
Alors là, on part sur du jazz avec la première nuit du blues de Jazz Action Valence. La soirée commencera par le trio CBT, puis le grand Fred Chapelier, qui distillera son blues entre hommage à Peter Green et ses propres compositions, soul, blues, rock. Et c'est à partir de 20h30. C'est à l'auditorium Maison de la Musique et de la Danse, 32 avenue Georges Clémenceau à Valence.
Eh bien, l'atelier de recherche et création, le TRAC, présente les projets réalisés par les étudiants à la Maison de la Musique et de la Danse à Valence, 32 avenue Georges Clémenceau, le 18 juin de 19 à 21h dans la classe Jerwin et dans l'auditorium. Aussi, si vous êtes étudiant ou jeune diplômé de l'Académie de Grenoble et que vous avez un projet, sachez qu'il peut se réaliser avec l'aide de Pépite Osée. Pépite Osée labellise et accompagne les étudiants entrepreneurs depuis plusieurs années et ouvre une 8e promotion. Vous pouvez candidater du 1er juin 2022 au 15 septembre 2022 pour un accompagnement dès la rentrée. Le prochain jury de sélection, c'est le 22 et le 23 juin sur le campus de Valence à la Maison de l'étudiant pour auditionner les premiers candidats. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site oser-entrepreneuriat.fr.
Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Ben, merci de m'avoir invitée.
Eh ben, nous adorons interviewer des médecins et ils ne sont pas toujours faciles à choper. Alors encore deuxième merci. Tu es médecin endocrinologue, c'est pas un mot que je prononce tous les jours. Et donc, pour commencer, je voudrais te demander si tu pouvais te présenter un petit peu pour dire si tu es d'ici ou d'ailleurs et si tu fais le métier de tes rêves, par exemple, aujourd'hui.
Oui, alors non, je ne suis pas d'ici, même si je suis bien maintenant. En fait, j'ai passé une partie de mon enfance à Vichy, dans l'Allier, donc en Auvergne. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai été installée 3 ans dans le Cantal, qui est une belle région, et je suis installée sur Valence depuis 2003. Voilà, et oui, je fais un métier qui me correspond bien, en tout cas, à la fois sur le plan humain, scientifique, et qui m'a appris plein de choses en plus.
Et c'est quoi cette discipline endocrinologie ?
Alors en fait, l'endocrinologie, c'est vrai que ce n'est pas une spécialité très connue, parce qu'on est peu nombreux. On va dire qu'on peut la séparer en deux parties. Il y a une partie qui va être plus tout ce qui est les maladies hormonales, donc la thyroïde qui est le plus connu, mais il y en a d'autres. Et puis une autre partie qui est la partie qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, qui est tout ce qui est lié au diabète, donc qui est une autre partie de notre profession.
D'accord. Et si j'ai bien compris, il y a deux types de diabète et celui qui est le plus répandu, c'est le diabète de type 2.
Voilà, c'est ça, oui. On parle, donc il y a une classification. Bon, je ne vais pas détailler parce que ça serait trop long, mais il y a deux types de diabète. Le diabète de type 2 qui concerne 90% des gens qui ont du diabète et donc qui est celui qui est le plus problématique et qui augmente de plus en plus en France et dans le monde. Et le diabète de type 1, qui est une autre forme de diabète qui concerne moins de personnes, même si c'est une maladie difficile aussi.
Donc, D'accord. C'est délicat d'en parler, je trouve, mais est-ce que tu peux nous donner une idée ? Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme humain quand on a le diabète de type 2 et en quoi c'est problématique ?
Alors, en fait, pour essayer de résumer simplement, le diabète de type 2, on va dire que c'est une mauvaise utilisation du sucre, du glucose dans l'organisme. Normalement, le glucose, c'est notre source d'énergie. Et donc, ça correspond à une mauvaise utilisation du glucose parce qu'il y a un mauvais fonctionnement au niveau du pancréas. Et donc, la conséquence, c'est qu'on a trop de sucre dans le sang, ce qu'on va appeler une hyperglycémie. Et une hyperglycémie à la longue, ça peut induire beaucoup de complications. On sait que ça augmente, ça multiplie à peu près par 8 le risque de problèmes cardiaques, d'infarctus, le risque d'AVC. Ça multiplie aussi par 8 le risque d'insuffisance rénale qui peut aboutir à la dialyse. Ça peut aussi aboutir à des troubles visuels et à la cécité. Donc tout ça, c'est des complications qui peuvent survenir si le diabète est mal équilibré. Par contre, on sait que s'il est bien équilibré, bien pris en charge, il n'y a aucun problème. Et même certaines études montrent que c'est des gens qui sont bien pris en charge et qui font attention et qui sont plutôt mieux protégées que dans la population générale. Donc il y a la problématique des complications à long terme. Et la deuxième problématique, c'est que ce n'est pas une maladie aiguë qui donne des symptômes. Donc par exemple, en France, on considère qu'il y a à peu près 3,5 millions personnes diabétiques dépistées, connues, et il y a à peu près 1 million de personnes qui ont du diabète et qui l'ignorent, parce que ça ne donne pas de symptômes tant qu'il n'y a pas de complications. Donc c'est le côté chronique et sans symptômes, sans complications, qui fait sa dangerosité, parce que du coup, si on ne sait pas qu'on est malade, on ne va pas se prendre en charge. Donc voilà.
Donc on découvre ça à l'occasion d'une analyse du sang ?
Voilà, alors on le découvre à l'occasion d'une analyse de sang. Donc c'est vrai qu'en France, on conseille un dépistage à partir de l'âge de 45-50 ans. C'est bien d'aller voir son médecin traitant régulièrement et puis de faire une prise de sang. Malheureusement, c'est aussi souvent découvert à l'occasion d'une complication, donc d'un infarctus, d'un problème visuel grave. Et là, on arrive trop tard. Donc c'est vrai que la prévention, c'est importante. Alors il y a aussi des stratégies de dépistage, notamment le bus santé qui passe, voilà, où on va dans les quartiers, on fait du dépistage. Chez les pharmaciens aussi, il y a du dépistage. Donc, et quand on sait qu'on a aussi des facteurs de risque, c'est important de se faire dépister, effectivement.
Et est-ce que tu veux nous parler un petit peu des facteurs de risque ? Mais avant, je voulais savoir un petit peu si c'est le diabète de type 2. Est-ce que c'est une maladie qu'on connaît dans nos civilisations depuis longtemps ? C'est une maladie, entre guillemets, ancienne, nouvelle, maladie plutôt occidentale, est-ce que et c'est lié à notre civilisation, tu vois, des choses comme
ouais,
ça,
ouais,
la malbouffe peut-être.
Oui, oui.
Excusez-moi.
Alors, je serai pas assez experte en histoire pour te dire depuis combien de temps, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une maladie qu'on connaît bien sûr depuis longtemps, qu'on connaît de mieux en mieux, et d'autant plus qu'avec plus les gens vieillissent, parce qu'on prévient d'autres maladies, plus le diabète apparaît, parce qu'il est lié à l'âge. Il est lié aussi au mode de vie actuel. Et par exemple, on parlait, alors dans le monde, on considère actuellement qu'il y a une personne sur 10 qui est diabétique, et les projections pour 2045 sont encore plus alarmantes, parce que la modification du mode de vie, notamment une alimentation dite plus occidentale, mais avec tous les travers, va augmenter le risque de diabète.
Tu parles de la nourriture transformée ?
Alors, la nourriture transformée, le fait de manger, alors comme on dit simplement à la télé, manger trop sucré et trop gras. Donc, les aliments transformés. Actuellement, il y a de plus en plus d'études, effectivement, qui montrent que les aliments transformés ont un rôle. On pense aussi certainement de plus en plus que les pesticides, les perturbateurs endocriniens ont un rôle aussi dans le diabète. Et puis dans l'augmentation aussi du diabète dans les autres pays du monde, qui étaient des pays qu'on appelle émergents, donc par exemple l'Afrique, l'Asie, il y a des augmentations de diabète qui sont absolument faramineuses, de 50 à 100%, voire même 140%, c'est attendu pour l'Afrique d'ici 2045. Et on a montré qu'il y avait un lien avec la motorisation. Moins on fait d'activité physique, plus on accède à des moyens de locomotion motorisés et plus le diabète semble augmenter. Donc en fait, c'est multifactoriel. C'est multifactoriel. Donc.
Mais c'est vrai que ça nous donne des indices déjà à cette étape sur la prévention.
Bien sûr. Et le grand intérêt, c'est la prévention. Parce qu'en deçà de tout ça, enfin, le but, ce n'est pas d'inquiéter. C'est au contraire d'avoir un message positif en disant, déjà, comme je le disais tout à l'heure, qu'un diabète bien équilibré, bien pris en charge, on a au contraire plutôt une meilleure espérance de vie. Et puis, on a aussi tout un tas d'études qui nous disent que chez des gens, qu'on a pris des gens qu'on savait très à risque de développer un diabète, du fait d'antécédents familiaux et de différentes choses, et on a montré que ce qu'on appelle une bonne hygiène de vie permettait de réduire de 50% le risque de survenue du diabète. Donc c'est vrai que clairement, en deçà encore du traitement, il y a la prévention qu'on peut faire et qui est très importante, oui, tout à fait.
D'accord. Ce serait peut-être intéressant de préciser ces facteurs de risque dont tu as commencé à parler. Peut-être ça va alerter.
Oui, tout à fait. Déjà, il y a des antécédents, ce qu'on appelle antécédents, donc le fait d'avoir des gens dans la famille, des parents qui sont diabétiques, parce qu'il y a une prédisposition. Ce n'est pas une maladie génétique au sens strict du terme, comme certaines maladies génétiques, comme la mucoviscidose, par exemple, mais il y a des facteurs de risque. Donc, s'il y a des gens diabétiques dans la famille, on va avoir plus de risques. Il y a le fait d'avoir un surpoids, donc qui fait qu'on est plus à risque de diabète. Les dames qui ont fait un diabète de grossesse, donc ça, on leur dit ce qu'on appelle un diabète gestationnel, parce qu'en fait, ça montre qu'il y a déjà un certain déséquilibre au niveau du fonctionnement. Donc voilà, tout ça, c'est des facteurs de risque qui font qu'on doit être alerté. Et notamment dans les familles de diabétiques, le message, ce n'est pas de dire « vous allez être diabétique », mais c'est au contraire de dire « il y a une prévention et c'est une maladie qui est évitable en faisant attention ». Tout à fait.
Tu veux nous parler de prévention un petit peu plus ?
Voilà, bah la prévention, c'est finalement, ça rejoint... Enfin, moi, je trouve ce qui est positif, c'est qu'actuellement, on a tout un tas de messages... de prévention sur l'alimentation, sur l'activité physique, dans différents domaines. Et en fait, tout se rejoint finalement. Donc la prévention, c'est ce qu'on disait, c'est d'avoir une alimentation saine et finalement simple. Parce que tu parlais des aliments ultra transformés, manger simplement. Souvent, on s'imagine que l'alimentation du diabète, ça va être compliqué ou c'est des choses différentes que quelqu'un d'autre. Alors que non, c'est vraiment l'alimentation qu'on nous conseille à tous et qu'on devrait tous faire, donc diabétique ou pas. Donc, acheter ses aliments, les cuisiner simplement, éviter de manger trop sucré, même s'il ne faut pas non plus faire de diktat en la matière, éviter de cuisiner trop gras, donc éviter les aliments ultra transformés, effectivement, parce qu'on a montré qu'ils avaient un rôle. Après, c'est difficile actuellement, et puis il y a aussi le coût que ça peut engendrer, de dire qu'il faudrait que tout le monde mange bio, mais c'est vrai que, enfin, et moi, de plus en plus, quand je reviens des congrès qu'on peut avoir, il y a de plus en plus une réflexion à avoir là-dessus, parce qu'il semble que tous les pesticides et autres ont un rôle. Et puis après, le deuxième biais de la prévention, bah, c'est l'activité physique. Alors simplement, c'est pareil, c'est les messages simples qu'on entend. Donc bah, déjà, marcher régulièrement, tous les jours, une demi-heure par jour, c'est pas forcément aller dans une salle de sport, mais prendre son vélo pour aller faire ses courses, marcher pour faire ses courses, voilà, monter les escaliers à pied, jouer avec ses enfants, donc c'est des petites choses toutes simples.
D'accord. Alors j'entends que tu vas dans les congrès, donc tu es connectée à des dernières recherches dans la matière.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc régulièrement, bah, autant au niveau de comprendre les causes, parce que c'est vrai qu'en comprenant les causes, c'est comme ça qu'on peut aboutir à une meilleure prévention, et puis sur les nouveaux traitements aussi. Puisque c'est vrai que les médicaments, donc le traitement médicamenteux représente à peu près un tiers du traitement, hein, comme on disait, l'activité physique, l'alimentation, c'est deux tiers. Mais il y a de plus en plus de progrès en termes de traitement, de médicaments, pour faciliter aussi la vie des gens, dans la surveillance. Donc il y a plein de choses qui émergent. Donc,
Et quand on est accompagné par toi, en quoi consiste ton travail ?
Alors, en quoi consiste mon travail ? Alors, c'est vrai que le spécialiste, c'est vrai que vous savez qu'actuellement, on est dans une situation médicale assez compliquée au niveau de la pénurie. Donc, en fait, et comme je vous ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de diabétiques. Donc, clairement, le spécialiste de diabétologie, il ne va pas être là pour suivre de A à Z un patient. C'est vraiment une maladie de médecin généraliste. Donc, ça va être le médecin généraliste et nous, on va être là... on va dire, pour épauler le spécialiste dans des situations difficiles. Il y a beaucoup de gens diabétiques qui sont bien équilibrés, qui ne posent pas de problème. Donc nous, on va être là pour épauler le spécialiste quand il a une difficulté de traitement, pour essayer aussi d'apprendre aux gens. Il y a une partie qu'on appelle l'éducation thérapeutique dans le diabète. Donc ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est justement, on apprend aux gens ce qu'il faudrait faire, pour améliorer l'équilibre du diabète, pour être autonome aussi par rapport à leur maladie. Hein, contrairement à une maladie classique aiguë où on prend un médicament 15 jours et où c'est fini, là au contraire c'est une maladie sur la durée, ce qui est difficile. Et puis où il y a des changements de vie à faire, et ça c'est pas simple non plus. Donc voilà, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est ça, c'est accompagner les gens dans leur changement, dans leur autonomisation. Donc en fait, le spécialiste de diabétologie, il va être là pour épauler dans certains cas quand le diabète est mal équilibré, pour aider dans l'éducation thérapeutique. Et puis on s'accompagne aussi d'autres personnes comme les diététiciens, par exemple. Voilà, il y a la gestion du stress aussi qui est importante. Il y a tout un tas de choses. Donc c'est...
Il y a peu de spécialistes. Il y a besoin d'éducation thérapeutique. Et c'est difficile d'imaginer que tu puisses le faire à l'échelle assez répandue en individuel. Mais est-ce qu'il t'arrive d'animer des ateliers d'éducation thérapeutique ?
Voilà. Alors, l'éducation thérapeutique, elle se fait... Il y a des ateliers, effectivement, à l'hôpital. Donc, le mardi matin, j'interviens à l'hôpital dans le cadre de l'éducation thérapeutique. C'est des programmes sur une semaine. Les gens sont hospitalisés pour une semaine. Donc, après, il y a les diététiciennes, il y a tout le monde. Donc, moi, j'interviens aussi dans ce cadre-là. Après, il y avait, mais maintenant, il a disparu, il y avait un réseau qui s'appelait Dromardia, à une époque, qui faisait de l'éducation thérapeutique en ville. Donc, malheureusement, il a disparu, faute de moyens, je crois. Donc oui, c'est pas simple. Il faudrait... Alors, actuellement, c'est vrai que vous connaissez les difficultés de la médecine. Et actuellement, on s'oriente de plus en plus vers des activités pluridisciplinaires. Donc l'idée, ça serait de travailler en collaboration avec différents intervenants pour que le patient il puisse aller voir le diététicien, il puisse aller voir... Il y a aussi des éducateurs sportifs, il y a des choses qui commencent à être remboursées, voilà.
D'accord. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une association ? Tu dis qu'il y avait ce réseau qui a disparu, mais est-ce qu'il y a des associations sur Valence ou dans la Drôme qui peuvent mettre en rapport ces spécialistes ou accompagner de manière pluridisciplinaire des patients ? Non ?
Ça se fait pas. Alors après, il y a les associations diabétiques. Donc il y a l'Association française des diabétiques. Donc là, du coup, j'ai pas les coordonnées, mais elles se retrouvent facilement. Et puis il y a des associations. Et après, il y a des représentations locales. Donc il y a des associations diabétiques. Donc je pense qu'en passant par là, on peut avoir des renseignements, effectivement. Mais pour l'instant, non. La seule association qui essayait de mettre en lien, c'était ce fameux réseau. Donc après, on le fait un peu. C'est aussi un peu ce qu'on espère qui va se développer dans les nouvelles politiques de santé, dans l'avenir et dans les prises en charge qu'on va avoir.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, merci beaucoup pour la qualité et la précision de toutes ces informations et d'être venu nous voir et rester avec nous tout ce temps. Merci beaucoup, Isabelle. Et tu reviens quand tu veux pour nous parler de politiques de santé et de la mise en place de ces nouvelles mesures pluridisciplinaires.
Eh bien, merci de votre invitation. Ça m'a fait très plaisir, en tout cas. Voilà.
Alors, ce vendredi 17 juin, ce sera le vernissage montrant le travail de sculpteurs et peintres de l'association Zinzolin. Donc, ils seront dans la salle du Palais Delphinal à Saint-Donat du 17 au 26 juin. Et vernissage donc le 17 juin à 19h avec le groupe Esprit Jazz qui jouera gratuitement dès 18h.
Alors, les 18 et 19 juin, il y a les sorties balades patrimoine dans le cadre de la 12e édition des Journées européennes de l'archéologie. Samedi 18 juin à 14h30, c'est Valence au Moyen-Âge, ce que l'archéologie nous dit. Pour la visite, c'est rendez-vous à la Maison des Têtes à Valence. Le dimanche 19 juin à 14h30, c'est les circuits d'histoire et patrimoine à Trior. Rendez-vous devant la fontaine Place Europe Village de Trior. Le groupe est limité et la réservation se fait au 04 75 79 20 86.
Oui. Alors, vas-y, tu peux enchaîner la nouvelle information, parce que j'avais un petit peu la même que toi pour la journée de l'archéologie. Donc, je ne vais pas répéter.
Minutes, pas de problème. Et pour connaître le reste du programme, rendez-vous sur le site du coup de journée-archéologie.fr. Et cette année, le petit week-end en famille se déroulera en même temps que les Journées européennes de l'archéologie. C'est un événement qui met en lumière les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique. Du coup, c'est l'occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir des collections préhistoriques, antiques ou médiévales. L'équipe du musée a préparé un programme réjouissant d'animation, de spectacles et d'ateliers à vivre en famille. C'est 2 jours d'animation pour petits et grands. Et c'est ce week-end, du coup, du 18 au 19 juin. C'est gratuit et c'est au musée de Valence.
Et très rapidement, à Tain-l'Hermitage, il y aura un concert samedi 18 avec Gérard Morel et l'homme orchestre qui l'accompagne. Ça se trouvera à Cavalart, à la Marronnière, et c'est dès 18h.
Ainsi se termine cette locale. Merci beaucoup à toutes les invitées, à toutes les Isabelle. Merci à Agathe, dont c'est la dernière émission.
Oui, sniff, sniff.
Pour l'instant.
Au revoir, Agathe. Tu vas nous manquer.
Bah oui, moi aussi, je vais me manquer.
C'était formidable. Merci à tous les auditeurs et auditrices. Merci à Kat pour la technique, les conseils et des regards amicaux. Restez sur Radio BLV sur 93.6.
Alors, la suite des programmes, je ne vais pas avoir le temps de tout vous annoncer. Vous pouvez tout retrouver déjà sur www.radioblv.com. La rediff de cette même locale à 18h et à 21h15, électrochoc, musique électro. Et quand même, quelque chose d'important que je voulais souligner, les samedis et dimanches matins de 8h à 10h, le fil musical dédié aux chansons anciennes.
Et n'oubliez pas que si vous avez aimé cette émission, vous pouvez la retrouver, et ainsi que toutes les autres, sur le site internet radioblv.com. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.